Chapitre 21. La lettre. Le duc avait passé la nuit, les coudes sur la table devant laquelle il s'était assis, la tête dans les deux mains. Au bruit que fit le serviteur, il se réveilla de cette longue torpeur et vit qu'il faisait grand jour. Alors il se leva et, les yeux fixés sur une image qui flottait sans doute devant lui, « Adieu, murmura-t-il, adieu, Violetta, jeunesse, amour. » Tout cela est mort. Pensez d'amour et de jeunesse, éteignez-vous comme ces flambeaux, évanouissez-vous et laissez la place aux rêves d'ambition. Le duc de Guise, amoureux de la petite bohémienne, n'est plus. Guise le conquérant, Guise roi de France et empereur, à l'œuvre. Et puisqu'il faut commencer par marcher sur un cadavre pour marcher à la gloire et à la puissance, allons préparer la mort de Valois. Il fit ouvrir les portes de son cabinet et la foule de ses gentilshommes y entra. « Messieurs, dit le balafré d'une voix forte, Sa Majesté le roi a convoqué les états généraux. Le clergé, la noblesse et la bourgeoisie ont envoyé à Blois leurs députés qui déjà ont commencé les conférences. Il me semble donc que notre place est non pas à Paris mais à Blois où de grands événements nous attendent peut-être. » À cheval, donc, messieurs, nous partons dans une heure. Les courtisans se retirèrent, empressés, pour faire leurs préparatifs de départ. Le duc s'assit alors et écrivit la lettre suivante. Madame, vous m'avez si bien convaincu que je ne veux pas attendre une minute pour commencer l'exécution de l'admirable plan que vous m'avez développé. Ce n'est donc ni dans un mois ni dans 8 jours que je me rendrai à Blois. J'y vais tout de ce pas. C'est donc à Blois même que j'aurai l'honneur de vous attendre afin de hâter ces deux événements que je souhaite avec une égale ardeur. La mort de qui vous savez et l'union des deux puissances que vous connaissez. Henri, duc de Guise, pour le moment. Guise cacheta sa lettre et, regardant autour de lui, ne vit que Maurevers. « Tiens, fit-il avec une rude ironie, vous êtes là, vous ?» « Monseigneur, dit Maurevers en s'inclinant, vous m'avez ordonné qu'en dehors des missions qu'il vous plairait de me confier, je me tienne constamment près de vous. » Guise baissa la tête. « Oui, oui, gronda-t-il en lui-même, j'étais jaloux. » « Il n'y a plus de motif, reprit-il tout haut et en dardant son regard sur Maurevers. « Vous êtes libre, mon cher, et savez-vous pourquoi ?»« J'attends que Monseigneur me la prenne. » Maurevers, je vous ai envoyé à Blois. Savez-vous pourquoi ? Je m'en doute. Blois est loin de l'abbaye de Montmartre, n'est-ce pas, monseigneur ? C'est vrai, dit Guise en pâlissant. Plus de soupçons, dit Guise avec un dernier soupir à l'adresse de celle qu'il croyait morte. Et je vous le répète, Maurevers, vous reprenez votre service ordinaire. Vous êtes libre d'aller, de venir. « Vous me voyez tout heureux d'avoir reconquis la confiance de mon maître. »« Oui, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. Maurevers, si je n'ai plus de soupçons, si vous êtes libre d'aller à Montmartre à votre convenance, c'est que... elle n'est plus. » Le visage de Maurevers n'exprima que de l'étonnement et non cette douleur que le duc attendait. « Monseigneur veut parler de la petite chanteuse ?» fit Maurevers. « Elle est morte, te dis-je. » « Ah, ah !» s'écria Maurevers de plus en plus étonné, mais sans donner le moindre signe de regret. Guise alla à lui et lui mettant la main sur l'épaule. « Allons, allons, je te fais réparation, Maurevers. Je vois que j'avais été injuste. »« Monseigneur me comble. Ainsi, cette bohémienne... » « Morte !» fit Guise en étouffant un sanglot. « Morte, mon bon ami, assassinée par l'infernal Pardaillan. » « Ah, ah !» répéta Maurevers stupéfait. « Heureusement, le sacripant est puni. Son corps servira de pâture aux poissons. Mais ce n'est pas ainsi que j'eusse voulu le frapper. La mort est trop douce pour lui. « Hein !» grogna Maurevers. « Que dis-tu ? Je dis, monseigneur, que malgré toutes les recherches, le corps de Pardaillan n'a pas été retrouvé. Or, tant que je ne l'aurai pas vu mort de mes yeux, tant que je ne l'aurai pas enterré de mes mains, je m'attendrai toujours à voir le truand reparaître au moment où on l'attendra le moins. Je donnerai 100 000 livres pour que tu ne te trompes pas. Et moi, j'en donnerais 200 si je les avais. Mais je ne les ai pas, bien que Monseigneur me les ait promises. Tu les auras avant peu. Eh bien, je les donnerai volontiers pour être sûr de me tromper. La peur que cet homme t'inspirait te fera douter, mon pauvre ami. Mais n'y pensons plus. Prends cette missive. » Maurevert prit la lettre que Guise venait de cacheter. « Au palais de la cité, le plus tôt possible, » dit le duc, « et qu'elle ne sorte pas un instant de tes mains. Monseigneur, je place votre lettre dans mon pourpoint, vous voyez. Je saute à cheval, et dans un quart d'heure, la missive sera à son adresse. » Le duc approuva d'un signe de tête. Quelques instants plus tard, Maurevert sautait en selle, et Guise, l'ayant vu s'élancer au galop, murmura comme jadis César « Alea jacta est !» Maurevert, dès qu'il ne fut plus en vue de l'hôtel, passa du galop au trot et du trot au pas. « Imbécile » gronda-t-il, tandis qu'un double éclair de haine jaillissait de ses yeux. « Monseigneur me rend sa confiance, vraiment, et tout est dit. Il oublie les humiliations dont il m'a abreuvé, et je dois les oublier aussi, puisqu'il me rend sa confiance. Ah, si j'étais sûr que Pardaillan soit mort, tu ne me reverrais plus, Guise, ou du moins, tu ne me reverrais que si je pouvais te rendre d'un coup le mal que tu m'as fait. Mais s'attaquer à un duc de Guise, diable! Allons, soyons sages. » Tout en grommelant ainsi, Maurevert gagnait non pas la cité, où il eût dû se rendre directement, mais son propre logis, où il ne tarda pas à arriver. Ayant mis son cheval à l'écurie, il monta à son appartement, s'enferma à double tour, tira les rideaux de la fenêtre, plaça une serviette devant la serrure de la porte, alluma un flambeau et, saisissant la lettre destinée à Faustin, se mit à l'examiner en la tournant en tous sens. Alors il commença à se livrer à un singulier travail au moyen d'une pince légère et d'un couteau à lame très fine, instrument qu'il avait dû employer plus d'une fois, car il les manipulait avec adresse. Au bout de 5 minutes de travail, la lettre était ouverte, le cachet intact. Maurevert la lut et la relut 20 fois, d'abord avec une grimace désappointée, puis avec un battement de cœur, puis avec la sourde joie de l'homme qui a déchiffré une énigme. Il avait compris. Alors Maurevert commença à se livrer à une autre opération. Il recopiait la missive, lettre par lettre, recommençant 10 fois sa copie, jusqu'à ce qu'enfin il eût obtenu une imitation parfaite de l'écriture de Guise. Puis il brûla les mauvaises copies et écrasa de son pied les cendres légères qu'elle faisait. Puis, après un travail qui amena à son front de grosses gouttes de sueur, il finit par enlever le cachet de la vraie lettre et l'adapta sur la fausse. « Ceci pour Fausta !» dit-il en recachetant la fausse lettre, c'est-à-dire sa copie. Puis, avec un sourire livide, regardant la vraie lettre, celle qui était de la main de Guise, « Et ceci, pour moi ? Non, de par l'enfer, ce sera pour le roi de France. » Alors il cacha la missive de Guise dans une poche secrète de son pourpoint, et tenant à la main la copie qu'il venait de faire, descendit, sauta à cheval et se rendit tout droit au palais de la cité. Quelques instants plus tard, la fausse lettre était entre les mains de Fausta. Maurevert alors retourna à l'hôtel de Guise, où il apprit que le duc et sa maison étaient en route depuis près de 2 heures. Maurevert partit à fond de train et, après 3 heures de course, rejoignit la cavalcade et se mêla au dernier rang. À l'étape, il se rapprocha de Guise, qui l'interrogea du regard. « C'est fait, monseigneur, » répondit simplement Maurevert.